Alors nous allons continuer dans les évangiles et nous sommes aujourd'hui dans Marc 10, Marc 10, 46. L'évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi et t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Belle histoire. Une histoire vraie, hein. Et nous savons, nous avons déjà vu ensemble, une fois précédente, que Jésus, c'était son dernier voyage. Il montait vers Jérusalem. Et il montait vers Jérusalem non pas pour être roi. Il avait prévenu ses disciples. Je vais monter à Jérusalem, on va m'arrêter, on va me crucifier. Et je ressusciterai 3 jours après. Donc il avait prévenu. Donc on voit, c'est son dernier voyage, et il monte, et en montant vers Jérusalem, il traverse ville et village, et là, il se trouve à Jéricho. Et à un moment donné, il allait pour sortir de Jéricho, et là, il y avait une foule assez grande, une très grande foule qui était là, avec les disciples, qui suivait Jésus. Et là, il y avait un aveugle, un mendiant, sur le bord du chemin. On a son nom, il s'appelle Bartimée. Et dans Luc, il est dit que cet homme qui ne voyait pas, il entendit qu'il y avait une foule. Et alors, il se pose des questions, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce n'est pas évident pour quelqu'un qui est aveugle. Quelqu'un qui a un handicap pareil. Parce que être dans la nuit sans cesse, sans pouvoir voir, sans pouvoir même travailler. Bon, c'est vrai que maintenant, les aveugles apprennent le braille, ils peuvent faire des choses. Mais à l'époque, il n'y avait rien de tout cela. Et donc, sa seule ressource, c'était de mendier. Il était, on pourrait dire, à la merci des personnes qui passaient. Donc, il s'était mis là, sur le bord du chemin, sans doute la route principale, là où il y a plus de monde qui passe. Et en plus, là, il y a une foule. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Jésus de Nazareth qui passe. Alors, bien souvent, on donnait au nom, au prénom, on l'associait à la ville d'où il venait. Donc, Jésus de Nazareth. Il venait de Nazareth, comme Joseph d'Arimathée. Parce que des Jésus, il y en avait plein. Là, c'était Jésus de Nazareth qui venait. Et là, on voit cet aveugle qui se met à crier « Jésus de Nazareth !»« Jésus de Nazareth !» C'est ça qu'il dit ? Non. C'est pas Jésus de Nazareth qui l'appelle. Regardez avec moi. « Fils de David, aie pitié de moi !» Attends, on lui a dit que c'était Jésus de Nazareth. Et lui, il dit « Fils de David. » Attends, mais pourquoi il dit fils de David? C'est Jésus de Nazareth. Et cet homme, on peut dire que, bien qu'il soit aveugle, spirituellement, il voyait clair. Parce que dire « fils de David », ça voulait dire que c'était le Messie. C'était fort. Alors, on ne sait pas comment il a su cela. Mais en tout cas, il reconnaissait en Jésus de Nazareth le fils de David, le Messie qui devait venir, le Messie que les Juifs attendaient. Et tout le monde savait que le Messie venait de la descendance de David. Tous les Juifs le savent. Encore maintenant, ils le savent que le Messie doit venir de la descendance de David. Pourquoi ? Parce que les prophéties en parlent. On voit dans Jérémie, le prophète Jérémie dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi, il prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Donc, voilà, il y avait plusieurs autres passages. Mais les prophètes ont prophétisé que le Messie venait de la descendance de David. Donc on peut dire que Bartimée reconnaissait en Jésus le roi, le Messie qui devait venir. Et en fin de compte, il proclamait sa foi. Et c'est vrai que Jésus est le fils de David. Dès l'évangile de Matthieu, si vous ouvrez votre Bible et vous ouvrez au Nouveau Testament, le premier verset de l'évangile de Matthieu, il nous est parlé de la généalogie Jésus, fils de David. Et d'ailleurs, c'est très, très, très intéressant, fils de David, oui. Mais Jésus, c'est plus que fils de David. Un peu plus tard, quand Jésus arrive à Jérusalem, là, il va interroger les scribes. Les scribes, c'était les hommes qui étaient très instruits, qui connaissaient bien les écrits des prophètes. C'était des gens très instruits de l'époque. Et il leur pose la question. Comment dit-on que le Christ est le fils de David ? David lui-même dit dans le livre des psaumes, c'est le psaume 110, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Alors, David, donc, l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? S'il est le fils de David, et dans le passage, on voit que David l'appelle Seigneur, comment il peut être son fils ? Et là, les scribes ne pouvaient pas répondre à cette question-là. Et Jésus voulait leur montrer que lui, il était fils de David, mais il était plus que fils de David. Et c'est pour cela que dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, il confirme que Jésus est le fils de David, mais il est aussi le fils de Dieu. Et il est dit... Cet évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Fils de David ? Oui. Fils de Dieu ? Oui. Et d'ailleurs, à un moment donné, Jésus a posé cette question à ses disciples, parce que beaucoup de personnes pensaient quelque chose. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui attire des foules, il y a chacun qui a sa conception. Et il dit, mais qu'est-ce que disent les hommes à mon sujet ? Oh, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres qu'ils pensent que tu es Élie, les autres pensent que tu es Jérémie ou un des prophètes. Et vous ? Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Et c'est là, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang ton intelligence qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et c'est là que c'est important d'avoir une révélation. Et cette révélation ne vient pas avec l'intelligence. C'est une révélation qui vient de Dieu et qui nous montre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Dieu venu en chair. D'ailleurs, bientôt nous allons fêter un Noël. Et avant ce jour de Noël, bien 9 mois avant, l'ange Gabriel était venu voir Marie. Puis il lui dit, tu seras enceinte. Et puis Marie lui dit, mais je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Oui. C'est Dieu venu en chair, c'est Dieu venu dans ce monde, parce que l'homme ne pouvait pas aller jusqu'à lui. Et combien d'hommes essayent d'aller jusqu'à Dieu, par toutes sortes de choses, toutes sortes de pratiques, de toutes sortes de pèlerinages, par toutes sortes de religions, pour aller jusqu'à Dieu. Mais l'homme ne peut pas aller jusqu'à Dieu. C'est pour ça que c'est lui qui est descendu, pour venir nous chercher, pour venir nous sauver. Et c'est pour ça que Christ, il est venu. Et il est venu pour donner sa vie, pour nous donner le pardon, pour être réconcilié avec son Père. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Annick a dit ce beau verset de Jean 3,16, hein, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors revenons à notre aveugle. « Aie pitié de moi !» C'était un appel de détresse. Imaginez-vous, c'est l'angoisse. Quelqu'un qui est aveugle, et il entend que Jésus de Nazareth est là, et que lui, il reconnaît qu'il est le fils de David, il dit, mais c'est mon occasion, c'est ma seule occasion. Parce qu'il n'avait personne. Par rapport à ce paralysé où il y a eu 4 personnes qui l'ont amené. Lui, il n'y avait personne pour l'amener à Jésus. Lui, il était sur le bord du chemin, aveugle, marchait à tâtons. Trouver Jésus dans une foule. Et il se met à crier. Dans Matthieu, dans l'original, c'est marqué, il hurle. Parce que c'est sa seule occasion. Et c'est vrai que c'est sa seule occasion. Parce que 8 jours après, Christ était crucifié. C'était sa seule chance. Alors imaginez-vous, c'était pas le moment de laisser passer ça. Et les personnes qui étaient à côté disent tais-toi, mais tais-toi. On ne sait pas pourquoi ils voulaient le faire taire. Vous savez, les aveugles, ils étaient méprisés quand même. Et certains ont des idées un peu fausses qui disent ah, s'il est aveugle, c'est qu'il a péché, il est puni de Dieu, voilà, c'est son karma. Il le paye. C'est ça. Deuxième, c'est peut-être comme il disait qu'il était le fils de David et qu'il disait qu'il était le roi. On lui dit, mais tais-toi, nous sommes sous l'occupation romaine. Ils avaient peur. D'ailleurs, quelque temps après, quand Jésus est monté à Jérusalem et qu'on disait, tiens, viens le roi, les pharisiens disent, fais taire tes disciples. Alors peut-être que c'est une raison. On ne sait pas. En tout cas, ces personnes voulaient l'empêcher de crier. Et lui, face à cette opposition, il s'est mis à crier encore plus fort. Il a eu raison. Parce que c'était sa seule chance. Sa seule chance. Une petite illustration. Vous savez, il y a une statue grecque antique représentant un homme avec des ailes aux pieds, une grande mèche de cheveux devant et le front arrière rasé, chauve. Et sur le socle, il est écrit Qui t'a fait ? Lysippe m'a fait, un grand sculpteur. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Occasion. Pourquoi as-tu des ailes aux pieds ? Pour m'envoler très vite. Pourquoi tu as cette grande mèche au front ? Pour que l'homme puisse me saisir quand j'arrive. Mais pourquoi l'arrière de la tête est-il chauve ? Pour qu'on ne puisse plus me saisir lorsque je m'en vais. Vous avez compris l'histoire ? S'il voit, hop, je l'attrape ! Mais dès qu'il est passé, c'est trop tard. Peut-être que c'est la seule fois de votre vie que vous allez entendre l'évangile. Et c'est le moment de saisir l'occasion. La seule chance. Et c'est pour cela que Jésus dit, et dans la parole il dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Il n'y aura peut-être pas de lendemain. Et c'est important, si j'entends sa voix, ne pas endurcir son cœur. Ne laissez pas passer cette chance, cette occasion que le Seigneur vous donne. Parce que vous avez le privilège d'entendre la parole. Il y en a qui n'entendent jamais. Mais ceux qui ont eu ce privilège, saisissez l'occasion. En tout cas, Bartimée, lui, il a saisi l'occasion. Et il a insisté. Et il a bien fait d'insister. Parce que Jésus a entendu. Malgré la foule, cette grande foule, Jésus a entendu. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus va répondre à sa prière. Il va s'arrêter. Et il va l'appeler. Et là, on voit la foule change. Il l'encourage, il dit, prends courage, il t'appelle, vas-y! Et il faut pas lui dire deux fois. Parce que qu'est-ce qu'il est dit? L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Ça montre, cette phrase nous montre la joie. Vous vous rendez compte? Ça y est, il a entendu. Oh, j'y vais tout de suite. Et hop, il jette son manteau. Il veut pas se laisser encombrer dans sa marche. Alors, je sais pas comment il a été dirigé, mais tellement. Il dit, ça y est, formidable. Ça y est, je vais être libéré. Ça y est, je vais pouvoir voir. Vous vous rendez compte un petit peu? Il n'a pas hésité à répondre à l'appel. C'est tout de suite qu'il a été. Ah, ça me fait penser un peu à ce passage d'Hébreux où il dit que bien souvent il y a des choses qui nous enveloppent si facilement. Et c'est pour ça, déchargez-vous ces choses et courez dans cette carrière. Et bien, c'est aussi pour cela aussi. On devrait t'encourager à aller de l'avant. Alors il arrive vers Jésus, puis Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse ? Jésus ne sait pas toute chose. Il ne sait pas qu'il est aveugle. Moi aussi, il le sait. Vous savez, ça m'arrive souvent. Des personnes que, quand je leur parle du Seigneur, et puis ils sont dans des difficultés, mais j'y dis, dites-le au Seigneur. Vous savez ce qu'ils me disent? J'ai pas besoin de lui demander, il le sait, il est tout puissant. Ça fait très spirituel, hein? C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil dissimulé. Parce que on veut pas reconnaître sa faiblesse. On ne veut pas reconnaître notre manquement. Et c'est ça, bien souvent. Oh, Dieu sait toute chose. Oui, mais le Seigneur attend que tu fasses ta demande précise. Il attend que tu lui demandes exactement ce que tu veux. Et ça, ça demande une humilité. Ça demande de reconnaître que je ne peux rien faire par moi-même. Que j'ai besoin de son secours. Et Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, c'est une leçon. La deuxième leçon, c'est pour montrer aux autres peut-être, et pour montrer que, pour que lui dise, mais en fin de compte, lui qui a eu l'habitude de mendier, de demander l'aumône depuis peut-être des années, on ne sait pas, mais est-ce que c'est l'aumône qui demande? Est-ce que, t'es le roi, tu peux me donner plus peut-être? Et non. Et avant de faire sa demande, il lui dit « Rabouni ». Oh, c'est beau. Vous savez ce que ça veut dire, « Rabouni » ? Ça veut dire « mon maître ». C'est plus fort que « Rabbi ». « Rabbi », c'est un maître. Ouais. « Rabbi », maître. « Rabouni », mon maître, mon seigneur. Vous vous rendez compte, cet homme qui est aveugle, il reconnaît en Jésus mon maître. Nous trouvons deux fois ce passage de Rabouni, ce mot, ici et Marie de Magdala après la résurrection de Jésus-Christ. Nulle part ailleurs, Rabouni, mon maître. Et il donne que je recouvre la vue. C'est une demande de foi. Ça me fait penser à cet agenda. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez le prendre, il y en a à la sortie. La deuxième méditation, c'est très intéressant. Il y a une femme, c'est là où ça s'est passé il y a très longtemps, ça s'est passé en 1700, 1800, attendez. En 1814, il y avait les Russes qui envahissaient les villages. Et il y a une chrétienne, là, une femme qui voit le danger arriver et qui se met à prier en disant « Seigneur, mets un rempart entre moi, entre ma maison et ces troupes qui arrivent. » Son fils qui était là, qui écoutait la prière, il dit « Eh maman, faut quand même pas demander l'impossible. » Et la maman qui répond « Tout est possible. » À Dieu. Et si vous lisez l'histoire, Dieu a répondu. Il a mis cette muraille, une muraille de neige, qui a fait que même la maison n'a pas pu être vue et ils n'ont pas pu attaquer cette maison. Une fois, c'est pareil. Demandez de revoir la vue. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que c'est que ce sujet de prière ? C'est impossible ! Non ! Il le croyait ! Et le Seigneur a répondu à sa prière. Et cet homme a pu voir clair. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est mis à suivre le Seigneur, à être son disciple. Et à louer le Seigneur, on le voit dans d'autres évangiles, à louer le Seigneur. Vous rendez compte ? Quelqu'un qui était aveugle, qui était mendiant, et qui maintenant voit. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est le ciel sur la terre pour lui. Ça y est, je vois, vous rendez compte, je vois. Et il s'est mis à suivre Jésus. Vous allez me dire, en quoi ça me concerne cette histoire? Moi je vois, je n'ai pas de problème, je ne suis pas aveugle, je ne porte même pas de lunettes. Il y en a quand même qui en portent, moi aussi. Mais il y a un autre aveuglement. Un aveuglement spirituel. Et même déjà au temps de Jésus, les personnes se croyaient bien. Et Jésus dit, vous êtes des conducteurs d'aveugles. Et vous êtes aveugles vous-même. Et deux aveugles qui se conduisent, ils tombent tous les deux. Et quand vous parlez à des personnes en disant « Moi, Dieu peut me donner le paradis sans problème, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui, quand j'ai judiciaire vierge, j'ai toujours fait ce qui était bien, je suis sans péché, Bah, je peux vous dire que vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle sur vous-même. Aveugle de ce que vous êtes. Vous savez, même le Seigneur parle à une église où il dit qu'il s'était aveugle. Une église qui était, qui commençait à régner. Ils avaient plein d'argent, tout allait bien, ils avaient besoin de rien. C'était l'église de Laodicée, une église où il n'y avait pas de problème. À qui croit ? Et le Seigneur dit, je suis riche. Vous dites, vous êtes riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que je ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez, on peut être aveugle. Et on croit, ah, on voit bien. Mais par rapport aux choses de Dieu, vous êtes complètement aveugle. Et je peux être complètement aveugle. Et la parole de Dieu dit d'ailleurs que si je refuse l'évangile, et c'est écrit dans les Épîtres, si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et si ce matin, vous ne voyez pas l'image, si vous ne comprenez pas, si vous croyez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le seul et unique moyen de salut, et que vous ne le voyez pas, vous êtes aveugle. C'est ça que veut dire la parole de Dieu. Si vous ne voyez pas briller Christ, celui qui est venu pour vous sauver, votre seule chance, ben vous êtes aveugle. Et vous avez besoin faire comme Bartimée, de crier, dire « Seigneur, aie pitié de moi !» Je veux voir clair. Je veux connaître ton chemin. Peut-être, ce matin, vous passez par des doutes. Peut-être vous dites « Mais il y a tellement de religions, il y a tellement de sectes, il y a tellement de choses, de philosophies, il y a tellement de choses. Qui croire ?» Ah, vous avez raison de se poser cette question-là. Et c'est pour cela, faites cette prière. Demandez à Dieu de vous éclairer, d'ouvrir vos yeux. Et si vous le faites d'un cœur sincère, il le fera. J'en suis convaincu. Parce que la Bible dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Donc, il ouvre les yeux de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, faites comme Bartimée. Criez au Seigneur. Demandez-lui avec un cœur sincère et il le fera. Et en tant que chrétien, nous avons aussi des leçons à apprendre de cela. Vous savez, bien souvent, nous sommes aveugles sur certaines choses. On a peut-être compris Christ, on a compris ce que Christ a fait pour nous. Mais des fois, dans la marche, on ne voit pas toujours clair. Des fois, on essaie de faire par nous-mêmes. Et le Seigneur veut nous montrer que c'est lui qui va le faire. Mais même par rapport à après, on dit, mais j'arrive pas à comprendre. Je suis dépassé. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, il faisait cette prière pour eux. Il leur disait ceci, on trouve ça dans Éphésiens chapitre 1. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Est-ce qu'on arrive à tout saisir? Est-ce que j'arrive à tout saisir, tout le trésor, tout ce que Christ peut m'apporter dans ma vie? Si j'arrive pas à saisir cela, j'ai besoin que le Seigneur continue à ouvrir mes yeux, qu'il illumine les yeux de mon cœur, pour savoir tout l'héritage qui m'est réservé là-haut, cette espérance, Un chrétien, il a une espérance. Il a un lendemain. Quoi qu'il peut lui arriver sur terre, il sait où il va. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, lui, le fils de David, fils de Dieu. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est lui le chef qui est de l'Église, le chef de l'Église, et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous en tous. Voilà. J'ai besoin peut-être, dit le Seigneur, continue à illuminer les yeux de mon cœur pour savoir tout ce qui s'attache à ton appel. Prions. Oh oui, Père, merci pour ta parole. Merci parce que Bartimée nous donne un enseignement. Merci pour cette foi qu'il avait. Et Seigneur, merci parce qu'il n'a pas été trompé. Il a mis cette foi en toi et il a retrouvé la vue. Et merci parce qu'il est venu ton disciple. Seigneur, merci d'ouvrir les yeux. Merci parce que c'est toi qui veux sauver. Et Seigneur, tu connais chacun ici. Tu sais où ils en sont avec toi. Peut-être qu'ils se croient sages. Peut-être qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de toi. Mais Père, je te prie d'éclairer les yeux, d'ouvrir des yeux, ces yeux spirituels, pour qu'ils connaissent, qu'ils puissent voir Christ briller dans toute sa splendeur. Ce salut parfait. Ô Père, qu'il n'y ait personne qui se perde, que personne reste aveugle, et que chacun puisse voir clair. Seigneur, je te prie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.